Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
L'histoire que je vais vous raconter semble être, hélas, une histoire cyclique, celle de catastrophes climatiques, des pluies diluviennes, des éléments déchaînés qui s'abattent sur l'une des plus belles régions de France, les Alpes-Maritimes. Pratiquement chaque année, ce sont les mêmes scènes de désolation que l'on retrouve. À l'origine de cela, il y a bien sûr les épisodes méditerranéens, l'expression exacerbée du réchauffement climatique. Mais est-ce seulement cela? Pourquoi ce phénomène général touche-t-il particulièrement cette région? C'est le Super Fail de la semaine. Il était une fois l'un des plus beaux villages de France, Sospel. Sospel a été un village prospère depuis le XIVe siècle. Il appartenait alors au comte de Savoie. Le lieu n'est donc pas né avec l'urbanisation de l'arrière-pays. La route qui mène à ce lieu est connue comme dangereuse. La faute à de nombreux éboulements. Et c'est ainsi qu'un beau matin d'avril 2018, un bout de route est littéralement tombé, celui qui menait au hameau de Bérulf et au plateau de Sainte-Sabine. Un formidable numéro des Pieds sur Terre, signé Sophia Fischer, avait été consacré à cette route, transformée en impasse.
Alors, la nuit du 12 au 13 avril, il y avait eu des pluies quand même notables. Et le matin, je me lève, ma compagne fait un petit saut sur Facebook avec le téléphone et elle tombe en fait sur une photo d'un garagiste de Sospel qui lui, en débutant sa journée de travail, voit la montagne qui est partie. Et il prend une photo, il la poste sur Facebook en mode « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Ma compagne me dit « Chérie, la route est tombée. » Donc moi, plutôt confiant, je lui dis « Oui, bon, ben voilà, on va marcher 4 mois et puis c'est bon. » Ça s'est déjà produit dans le passé, que la route soit un peu bloquée à cause des glissements, à cause des éboulements. Bon, ça va, on survivra. Hein. Puis elle me dit « Non, non, chérie, elle est vraiment tombée !» Et puis là, elle m'amène le téléphone, elle me montre la photo donc qui avait été postée. Et là, effectivement, c'est assez choquant parce que enfin, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de montagne, et tout le pan de montagne était parti. Quoi. C'est 200 ou 300 000 mètres cubes de terre. En hauteur, je crois que facile, on doit atteindre les 100 mètres de haut, en fait, hein, verticalement, en altitude, qui sont partis. Donc la seule route a été emportée donc par le glissement qui s'est déroulé assez vite. On n'a pas entendu de bruit. On est entre 50 et 70 personnes qui vivent dans les trois quartiers touchés par la catastrophe. C'était la seule route qui permettait de rejoindre les quartiers concernés, à savoir Bérulf, Serre de Sarreta et Sainte-Sabine. Ces trois quartiers se sont retrouvés instantanément coupés du monde en fait. Et relié uniquement au village via des sentiers.
Un spécialiste de géologie de l'université de Nice, Thomas Lebourg, nous explique pourquoi ce phénomène.
Il y a 4200 ans, tout le sud des Alpes a été affecté par des changements climatiques majeurs, comme un peu ceux qu'on pourra avoir dans les années à venir. Et on a eu des véritables cataclysmes, c'est-à-dire des centaines de glissements de terrain de plusieurs millions de mètres cubes qui ont changé totalement la morphologie de ces régions. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu ça depuis plus de 4000 ans, mais ça pourrait arriver dans un temps qui est totalement incertain. Il y a des signes avant-coureurs qu'on pourra observer. Dans le laboratoire du CNRS dans lequel je travaille, on met en place des outils et des méthodes pour cartographier, anticiper les déplacements, et on espère peut-être à terme avoir des outils qui nous permettront de localiser avec beaucoup plus de précision les zones qui seront soumises à ces mouvements de terrain gigantesques. Donc je pense que, voilà, si on se donne les moyens dans la recherche, on pourra arriver à faire quelque chose.
Alors bien sûr, le réchauffement climatique ne fait qu'empirer les choses.
C'est un facteur aggravant, déclencheur. Il y a un véritable réchauffement. Plus la Méditerranée est chaude, plus les événements de type méditerranéen seront forts et importants. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années, on observe vraiment une augmentation de l'intensité de ces phénomènes. Là, c'est le premier phénomène qu'on a eu là il y a quelques jours, on va en avoir d'autres. Et donc, c'est vrai que le réchauffement climatique va avoir une incidence et va modifier radicalement la manière de vivre sur ces territoires. La terre est poreuse, et quand il pleut, eh bien cette porosité se vide dans le sol, se remplit d'eau, et donc ça augmente le poids. En plus de ça, c'est un effet cisaillant, c'est-à-dire que l'eau va offrir aucune résistance au cisaillement et la Terre va se mettre à glisser, tout simplement par sa propre gravité. Et donc plus les terrains sont saturés, et bien plus le glissement est facile à se mettre en œuvre. Voilà. Donc il faut contrôler l'eau à l'amont Et c'est pour ça que l'urbanisation, alors peut-être pas dans les villages, mais dans les zones du littoral, est très importante et la gestion des eaux pluviales est fondamentale. L'État fait, je pense, très bien son travail, surtout l'État local. Hein. Les universitaires font bien leur travail, et, c'est pas évident. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est la facilité, depuis une vingtaine d'années, d'attribuer des permis de construire dans des zones où on sait qu'il y a quand même des risques. Et là, je pense que, pas l'État au sens propre du terme, mais l'État local fait que là, on devrait interdire vraiment des zones. Mais la pression foncière est tellement forte que les gens cèdent facilement. Et une montagne, elle aussi vieillit. Elle n'est pas immuable. Et une route aussi vieillit avec le temps. Sauf que la route est un objet qui est rigide sur un corps qu'on appelle la montagne, qui est lui, entre guillemets, vivant et qui évolue. Et dans ces zones de fragilité, eh bien, la route commence à céder. Les mois avant le sinistre de Sospel, on avait observé des fissures très actives sur la route. Ces fissures ont été rebouchées. Et c'est l'absence de connaissances fondamentales de ces phénomènes qui se produisent dans le temps qui n'a pas alerté, entre guillemets.
Pas de route, ça veut dire rien pouvoir prévoir, hésiter au moindre rendez-vous. Oh, est-ce que la grippe que j'ai, elle est si grave que ça? Est-ce que ça vaut le coup que je descende? Et puis en fin de compte, peut-être que 2 jours après, on est mort. Parce qu'on a eu la flemme de descendre en médecin, parce que c'est voilà. Les sorties, dans les grandes lignes, c'est quand même vachement compromis. Est-ce que avec quand on a bu un pichet de rosé, qu'on finit un resto avec les amis à 23h ou à minuit, est-ce qu'après on se sent de remonter 400 mètres de dénivelé et 4 km de sentiers escarpés, on s'arrête sur le bord de la route, on change de chaussures, on met les pompes de rando, on enlève la petite chemise sympa à fleurs et puis on met un t-shirt respirant, et puis go quoi, on charge le sac à dos de course parce que surtout, faut jamais remonter à vide, parce qu'un être humain... Qu'est-ce que ça bouffe? On génère une quantité de déchets qui est phénoménale. Après, nous, les déchets, là, ça doit faire 8 mois, on les descend plus. Hein. Soit on fait des tas en attendant qu'il y ait la route pour tout redescendre en une fois, soit on brûle. À cela, il faut ajouter ce qui avait posé énormément de problèmes du début, l'hygiène corporelle. C'est-à-dire, on est dans des sentiers qui sont boueux, qui sont régulièrement envahis par la végétation. Quand on fait un travail de bureau où on a besoin d'être un minimum, on va dire, propre, on ne peut pas se permettre d'arriver dégueulasse, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se change? Et où est-ce qu'on peut mettre des fringues de rechange? Où est-ce qu'on va pas, on se les trimballe dans le sac à dos tout le temps, dans la voiture? Comment est-ce qu'on fait?
Alors que faites-vous lorsque la route qui mène à chez vous disparaît? Eh bien, c'est ce que nous explique l'un des habitants à qui cette mésaventure est arrivée, Jacques Denet. Il préside l'association des déroutés de Sospel.
Les gens de la préfecture et du conseil général qui sont venus nous expliquer la gravité de la situation, bon, on l'avait bien compris, et dire qu'ils allaient essayer de faire une piste provisoire ou une piste définitive, mais qu'il leur fallait déjà chercher un tracé, puisque c'était la première difficulté, sachant qu'à Sospel, on a beaucoup de veines de gypse. Le gypse, c'est le minerai qui permet de faire du plâtre, donc c'est un minerai qui est soluble dans l'eau. On essaye d'éviter de construire et de faire une route sur du gypse, puisque on a bien vu que ça pouvait à terme ne pas tenir. Donc la première journée, tout le monde était un peu désorganisé, nous aussi. Hein. On savait même pas si on allait pouvoir rester habiter chez nous, ou si on allait faire une route ou quoi. Ils ont dit qu'ils allaient essayer. Un des problèmes qu'on avait, c'était les véhicules qui étaient tous prisonniers dans le territoire du hameau et du plateau. Où on a demandé si on aurait l'assistance de l'armée pour sortir les véhicules et où on nous a expliqué que vraisemblablement pas. Ils ne viennent que quand c'est vraiment dramatique, quand c'est vraiment catastrophique, et parce qu'ils viennent avec du gros matériel, du matériel lourd, et ils se déplaçaient pas pour nous, a priori. C'est pas faute d'avoir demandé au préfet. Après, ce qui a été étonnant, justement, c'est qu'on a eu la visite donc du préfet qui est monté à pied chez nous, de notre député Alexandra Valette-Ardisson qui est monté chez nous à pied. On n'a jamais eu autant de personnes politiques ou publiques qui sont montées s'intéresser à nous, quoi. Ça a été proposé le premier jour en nous disant que bon bah dans l'urgence il y avait a priori la commune qui était prêt à aider à un relogement partiel, mais tous autant qu'on était, il n'était pas question qu'on quitte notre territoire. On n'avait pas du tout l'intention d'en partir. On est très attaché à cet endroit et bon. on était plutôt prêt à accepter les inconvénients. Là, une demi-heure de marche le matin, une demi-heure de marche le soir, les courses à monter sur le dos. De temps en temps, bon, on a fait quelques héliportages quand même pour le matériel trop lourd.
Aurait-on pu éviter la chute de la route de Sospel ? Thomas Lebourg a des doutes.
Pour le glissement de Sospel, on n'aurait rien pu faire. Parce que la masse est tellement importante qu'il aurait fallu des sommes pharaoniques pour stabiliser la route. Il aurait peut-être fallu anticiper par la création d'une autre route, ce qui a été fait plusieurs mois après. Mais on ne pouvait rien faire. Comme on ne peut rien faire à l'heure actuelle en ce moment par rapport à ce qui se passe. Ce sont les phénomènes qui sont beaucoup trop importants, avec une énergie tellement importante qu'il est impossible de les contrôler. Voilà. On s'est essayé en Italie, à Mendatica, à Cirena, sur des protocoles expérimentaux de drainage des massifs, parce qu'il y avait des aléas, une vulnérabilité très importante, mais ça coûte des dizaines de millions d'euros. On a un glissement avance aussi, où est affiché des dizaines de millions d'euros pour stabiliser un petit glissement, donc c'est impossible de stabiliser. Il faut vivre avec. Alors, dans les Alpes-Maritimes, il y a une formation qu'on appelle le GIPS. C'est une formation géologique qui s'est formée suite à l'évaporation des océans. Et donc, c'est une formation qui est très, très meuble, érodable, qui se dissout très facilement et qui se dissout très rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on a souvent des grands effondrements et des masses qui sont instables en quantité. Ça, c'est dû au contexte, ce qu'on appelle structural en géologie, et à la formation de cette chaîne de montagne. Et on est sur le bout de la formation de la chaîne de montagne. Donc on est dans des zones qui sont très très fragiles en réalité. On a construit dans des zones, mais on ne savait pas, c'est par ignorance que ça a été fait dans les zones de montagne, peut-être par cupidité dans les zones du littoral, mais ça c'est un autre débat, parce qu'il y a parfois souvent des connaissances qui sont acquises sur ce littoral, mais dans les zones de montagne, avant les gens avaient des habitats beaucoup plus petits, beaucoup moins de transport. À cause du foncier de la Côte d'Azur, les gens vont vers l'intérieur des terres. Et l'intérieur des terres n'est pas fait pour recevoir une habitation, une population aussi importante, avec des moyens de transport, des routes, des camions. Donc là, on transfère une vulnérabilité vers une zone où l'aléa était assez élevé. Et c'est ça qui se passe à l'heure actuelle.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Les routes qui conduisent à ces lieux magiques sont donc des routes précaires, construites sur du gypse. Voilà pourquoi elles sont et seront toujours vulnérables, un peu comme si la beauté avait un prix si celle-ci se méritait. Mais cela veut dire qu'aucun chantier, aucune technique ne pourra vaincre la gravité. Les routes qui montent pourront toujours finir par tomber.
What a wonderful world.
Superfell a été ruiné à la production par Juliette Deveau, piétiné à la réalisation par Félicie Faugère, cassé à la technique par Adelino Mello et enfin dévasté au montage par Louise Loubrieux.
Superfell.